Oui, allez, c'est parti, il est 19h. Hein. Oh bah déjà, oui.
Piloter un bateau se fait en équipe, et chaque membre de l'équipage aura un rôle à jouer.
Allez Marcel, ouvre le bon canal.
Le capitaine doit s'assurer que tous les membres de l'équipage sont à leur poste.
Eh oui, on papote et puis on oublie de prendre le direct.
Exactement.
Une fois n'est pas coutume. C'est la péniche qui accoste sur Radio Primitive, on est en direct.
Oui.
Ça faisait un petit bout de temps, je sais plus trop, mais on se laisse un peu vivre, je crois.
Ouais, on a la cool. On a dit, ça suffit la charge mentale.
Ouais, voilà.
Donc on est à la cool.
À la cool. À la cool, Raoul.
Puis on revient sur un petit turnstile qu'on aime toujours autant, donc c'est très bien.
Il y a du soleil dans le studio, il fait combien? 27, 28 degrés là?
Ça dit 24,2 là.
Ah bah ça a
baissé. Ça a un petit peu descendu. Ah, c'est... Et oui, parce qu'on est super équipés à la péniche.
Eh ben oui, alors, avec Marie, on vous a préparé une petite playlist.
Oui, on est équipé en musique aussi.
On est équipé.
Ouais.
J'ai trouvé 4 morceaux.
On est équipé de quoi? On est équipé de punk hardcore qui mélange avec d'autres trucs. On est équipé de black metal qui mélange avec d'autres trucs. Alors, ça va être un peu ça, hein, je prends le thème de noise qui mélange avec d'autres trucs. La cold wave, goth wave. Bon, ça mélange aussi avec un autre truc, disons ça. Et puis, un bouche ton boule en mélangeant aussi d'autres trucs. Bon bah disons que mon fil rouge, ça mélange avec d'autres trucs, mais c'était pas prévu du tout.
Bah c'est bien.
Ouais, c'est pas mal.
Le mélange.
Ouais, c'est pas mal.
Parce que moi j'ai aussi des mélanges.
Ah, cool.
J'ai des mélanges de black metal et de crust, des mélanges de sludge et de noise, de screamo et de post rock même, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis mélange rap, punk, hip hop.
Ah oui, je crois que je vois très bien de quoi tu parles.
Un clip qui vient de sortir.
Oui, oui.
Donc mélangeons.
Mais oui, on mélange.
Mélangeons tout ça. Tiens, il y a un petit bruit de maracas derrière.
On mélange.
Un petit shaker.
Un petit daiquiri, s'il vous plaît.
Oui, ah bah volontiers. Bien frais.
Bien frais et fort en musique aussi. Moi, je prends le double daiquiri, s'il vous plaît. Ah oui?
Très bien. Je passe commande au bar d'en bas.
Bah ça marche, allez.
Tu sais, comme dans Gaston, il commandait des jus d'orange ou des sandwichs au bar d'en bas.
Ah oui, c'est vrai.
Et il leur demandait de monter dans le bureau. Pourquoi on n'a pas un bar en bas de Radio Primitive?
Alors c'est-à-dire que maintenant, dans l'entrée, avec le meuble et tout, où il y a tout qui est rangé, il n'y a plus beaucoup de place pour faire un bar.
Ah ben non, mais là, il pourrait. Bon, bref.
Oui, c'est vrai.
Que s'est-il passé dans l'histoire?
Oui.
On est le 17 avril.
Avril, oui. Oui. Oui, oui.
Eh bien, c'est l'éphéméride.
Éphéméride, donc du coup, écrit à la main. Et puis, Paris spécial événement anarchiste en cette journée mondiale des luttes paysannes créée en 1996 au Brésil, à la suite de la répression d'une manifestation par le mouvement des Sans-Terre, organisation militante brésilienne. Là, normalement, la semaine dernière, ça aurait été agriculture, tu vois. On avait du Marcel Duchamp, du Gatsby,
de l'art de la guerre. T'avais préparé pour la semaine dernière.
Désolé. Oh, bah non, mais c'est pas grave. Ça va vite à refaire. Hein. Allez, c'est parti, 17 avril 1887 à New York, c'est la sortie du premier numéro de la revue International Bibliothèque, avec un beau cas à la fin, publication mensuelle irrégulière, ça m'a fait rire, du propagandiste anarchiste allemand Johann Most. Ce premier numéro a pour titre « An das Proletariat », qui veut dire « au prolétariat », voilà. Je pense toujours que la meilleure accent allemand qu'autre chose quand j'essaye de le faire à la radio, mais bon, c'est pas glorieux pour autant.
Ça sonnait mieux dans ta tête.
Ouais, c'est ça. Et au moins, attention, incroyable, mais vrai, 18 numéros vont paraître jusqu'en 1893. C'est beau, bravo. Quelques années après, 1929 à Paris, c'est la sortie du numéro spécial de... Alors c'est pareil, résistere, c'est horrible, qui veut dire résister, EZ, hein, évidemment, enfin, bulletin donc en langue italienne, comme vous l'avez très bien compris, du comité anarchiste de défense des victimes politiques d'Italie. Ce numéro est consacré en particulier au compagnon Angelo Bartolomei, qui risque d'être à ce moment-là extradé de Belgique vers la France pour être livré à l'Italie fasciste de Mussolini ensuite. Donc c'est pas un super sort qui l'attendait, donc voilà, petit numéro engagé. Et quelques années encore après, en 2000, à Washington. On ne parle pas souvent des États-Unis dans cette partie-là. Fort de leur succès à Seattle, non, ça n'a rien à voir avec le grunge, des milliers d'opposants à la mondialisation ont perturbé pour le troisième jour consécutif, d'ailleurs, le sommet du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, réussissant à retarder l'arrivée des délégués malgré le quadrillage de la ville par la police anti-émeute qui, évidemment, grand seigneur, matraquera les manifestants et manifestantes et procédera à plusieurs centaines d'arrestations. Bah oui, tant qu'à être là.
Ah, le gauchiste.
Voilà. Plus de 500 groupes de manifestants et manifestantes, dont des anarchistes de Direct, plutôt Action Network ou encore les Black Blocs, dénoncent, je cite, le cas capitalisme cannibale, responsable de l'exploitation et de la misère de millions d'êtres humains et surtout dans le tiers-monde, ainsi que les violations des droits de l'homme. Des photos assez récentes les photos, je trouve, de reportages comme ça, journalistiques, ont toujours bien marqué la violence, mais alors là, celle que j'ai vue, tu sais, ça fait encore plus écho aux violences qu'on peut voir actuellement. Je pense que c'est le côté aussi couleur de l'image qui est très ancré dans le présent. Donc voilà.
Je trouve ça beau, moi.
Alors, les photos restent belles, mais elles sont atroces dans le discours implicite, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était l'histoire.
Oui, alors un peu de musique, anecdote musicale.
Oui, alors comme j'ai beaucoup écrit, que j'ai plus l'habitude d'utiliser un stylo, j'ai fait merde, ça sera une classique et plus courte. 17 avril 1991.
91, c'est Nirvana.
Eh ben oui. Ah, franchement, je te jure, les autres, elles étaient trop longues. Je suis là genre, putain, mais on oublie vite se servir de cette petite chose qu'on appelle un poignet. Et donc, Nirvana interprète pour la première fois en concert Smells Like Teen Spirit dans une salle d'un club de Seattle appelé OK Hotel. Ce titre emblématique, évidemment, devenu le tube international, malheureusement, marquant toute une époque, figurera donc évidemment sur le deuxième album du groupe Nevermind. Et ils prendront un malin plaisir à le maltraiter, ce morceau, parce que bon, Nirvana n'aimait pas particulièrement le jouer. Et Kurt Cobain disait même que, je cite, c'était presque embarrassant d'ailleurs à jouer, à force. Et le côté tubesque,
on peut comprendre.
On peut comprendre. Et du coup, ça m'a rappelé l'anecdote dont j'avais parlé, mais on la connaît tous à Top of the Pops. Oui. Quand ils chantent à la Morrissey, les autres ils font semblant parce qu'il leur avait dit jouer en playback. Ils ont dit ok, tu vas voir Coco. Et c'était toujours, je l'ai réécouté, du coup, c'était toujours un plaisir. Voilà, c'était la petite anecdote classique.
Oui, alors un portrait de femme ensuite.
Oui, alors là, on est vraiment dans le nouveau, mais c'est comme ça avait été écrit sur ordinateur, j'ai pu écrire beaucoup plus.
6 pages.
Allez, c'est parti. Née le 1er août 1910 à Stuttgart, Gerda Poril, dite Gerda Taro, est une photojournaliste et photographe de guerre allemande, connue notamment pour ses reportages sur la guerre d'Espagne. Alors Gerda, elle naît dans une famille modeste, voilà, et assez endettée, qui déménagera à Leipzig vers 1930, ce qui ne va pas l'empêcher de bénéficier d'une éducation quand même assez bourgeoise et artistique. Après avoir rencontré un étudiant en médecine, un certain Georges Kuritske, qui lui confirme donc ses intuitions révolutionnaires, et après s'être jointe à des groupes de gauche anti-nazis, elle est arrêtée en 1933, vite tant qu'à faire, pour distribution de tracts et fait l'expérience de la prison. Alors que la répression ne fait qu'augmenter en Allemagne, vous vous doutez bien, 1933, elle part vivre où ça ? Ben à Paris, en fin 33, où elle ne trouve que peu de travail, fréquente des cafés où bon nombre d'artistes se retrouvent et se lient d'amitié avec des antifascistes réfugiés en France. Elle y animera d'ailleurs le groupe Leipziger Kreis, auquel participent des membres du SAP, on en a déjà parlé, pardon, c'est le Parti Socialiste d'Ouvriers Allemand, ou d'Allemagne, et qui était donc en exil. Gerda va débuter ensuite en tant qu'assistante des photographes en chambre noire, ça y est, elle a trouvé du boulot. Le matériel coûte très cher, elle n'a pas de quoi s'acheter donc son propre appareil pour l'instant. Cela lui permet en tout cas d'en apprendre beaucoup sur la technique avant de se mettre à la pratique. Elle se procurera par la suite, alors pour celles et ceux qui connaissent, un Leica et un Rolleiflex.
Waouh !
Ouais, appareil qu'elle utilisera toute sa carrière. Un an après, en 1934, elle travaille comme assistante à l'agence Alliance Photo, agence dans laquelle elle fait entrer son amant André Erno Friedman, qui est un photographe, lui, d'origine hongroise. Leur carrière ne décollant pas, hein, oui, c'est-à-dire qu'à mon avis, dans ces années-là, ça ne devait pas être évident, hein, effectivement. Elle leur invente des noms. Donc elle prendra celui de Gerda Taro et crée le personnage du, je cite, photographe américain nommé Robert Capa, pour son compagnon, à qui elle fait la promotion de ses clichés. Tu vois, elle est gentille, elle ne fait même pas la promotion de son travail, elle. Bon, après cela, elle décide de se lancer en tant que photographe quand même professionnelle, mais rares sont les photos qu'on a retrouvées d'elle, puisqu'elle a d'abord publié sous le nom de Kappa, avant l'invention du copyright commun, le reportage Kappa and Tarot, en 1936. Ces photos seront ensuite publiées dans de nombreux magazines et journaux, et c'est là qu'on va enfin pouvoir voir un petit peu de quoi elle est capable. Gerda étant très engagée, on l'a dit au début, et très politisée, elle souhaite rendre compte en image justement d'une victoire républicaine dans le conflit en Espagne. Donc c'est bien, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans l'histoire. Par conséquent, donc, ces reportages photographiques témoignent des combats sur différents fronts espagnols et des victoires des républicains. Gerda n'est pas une observatrice qui prend de la distance avec ce qu'elle immortalise. Non, non, elle souhaite vraiment être au plus proche des événements. Elle ne se satisfait pas d'un petit endroit à l'abri pour prendre des photos. Elle préfère vivre la scène sur le terrain, comme les soldats et les victimes finalement. Et ça m'a fait beaucoup penser à Lee Miller, justement, qui avait pris de nombreuses photos directement sur le terrain, qui s'était mise d'ailleurs en danger à Saint-Malo, qui était sous les feux des nazis à ce moment-là. Avec Kappa, donc, ils veulent que leurs photos évoquent la même chose partout et pour tous. Donc ils s'intéressent aux femmes miliciennes, aux guerrières, aux visages, à la misère et à la combativité d'un peuple en lutte pour sa liberté, voire même à des barricades utilisées comme terrain de jeu pour les enfants à ce moment-là. Cependant, contrairement à lui, Gerda axe davantage une partie de son travail sur le fait de prendre des clichés de victimes civiles, et donc effectivement, en particulier des femmes. Et donc, si vous voulez, femmes et enfants d'ailleurs. Et si vous voulez voir une photo, moi, que j'ai trouvée très belle et qui mérite d'être vue au-delà de tout ce qu'elle a fait, ça s'appelle donc Soldatée, S-O-L-D-A-T-E, mais républicaine, comme en France, à Barcelone en 1936. La photo a été prise, voilà. Et je la trouve très jolie, cette photo. Vous l'avez vu
sous les yeux. Je l'ai sous les yeux.
Alors, vous confirmez, elle est sympa. Hein, ça reste beau. Hein,
ouais, c'est
ouais,
beau.
C'est ouais. Sa première carte.
Un peu chapeau melon et bottes de cuir.
Sa première carte de presse date du 4 février 1936, quand même délivrée par ABC Press Service, une agence de photos d'Amsterdam. Donc ça devait sans doute pas se prononcer comme ça. Alors que Gerda et Kappa suivent les combats des brigades internationales aux côtés des combattants républicains comme photographes de guerre et qu'ils signent leurs photos de leur deux noms, Kappa y gagne évidemment une reconnaissance mondiale, c'est un homme. Tandis que le travail de Gerda reste dans l'ombre et voilà encore une
c'est
victime.
Sa secrétaire en fait.
Oui. Ou encore une belle victime de l'effet Mathilda. Je suis même pas sûre qu'elle existait à vrai dire. Je suis même pas sûre qu'elle avait un rôle en soi. Alors que lui, il n'était pas comme ça, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Bon, bref. Elle va donc décider de le quitter, quand même, pour couvrir le bombardement de Valence et vendre son travail sous son seul nom. Malheureusement, lors des violents combats autour de Madrid, près de Brunete, elle est écrasée par un char républicain alors qu'elle était juchée sur le marchepied d'une voiture. Elle meurt donc le lendemain de l'accident, le 26 juillet 1937, à l'hôpital de l'Escorial, situé au nord-ouest de Madrid. Et donc, elle est la première femme photographe de presse tuée dans l'exercice de ses fonctions. Son enterrement au cimetière du Père-Lachaise, le 1er août 1937, en présence de milliers de personnes, devient une manifestation antifasciste. Son éloge funèbre est prononcé par Pablo Neruda, quand même, et Louis Aragon. Sa tombe est dessinée par le sculpteur Alberto Giacometti, que personnellement j'adore, à la demande justement d'Aragon. Et évidemment, parce qu'il faut quand même la faire chier jusqu'au bout, sa tombe sera profanée par les nazis en 1942, parce qu'on va quand même pas s'arrêter là. Et donc en septembre 1937, lors de son premier voyage à New York, Robert Kappa convainc les éditions alors Covisifrede de publier Death in the Making, donc un album d'une centaine de photos réalisées en Espagne. Il s'agit donc de reportages que Gerda et lui-même ont effectués ensemble ou séparément entre août 36 et juillet 37. Et l'album paraît au début des années 38. Enfin, en 2007, une valise retrouvée à Mexico contenant 4500 négatifs de Gerda, de Robert Kappa et d'un autre photographe qui s'appelait David Seymour, réalisé justement au cours de la guerre d'Espagne, est retrouvé et permet de reconsidérer sous un nouvel angle l'importance du travail de Gerda Tarot.
Okay.
Et oui.
Qui est-ce qui avait compilé ça ?
Eh ben, on ne sait pas. Ça a été retrouvé. Peut-être qu'on peut, on peut trouver plus d'infos, mais moi, je n'en ai pas eu. Et donc, en fait, ça a permis tout ça de montrer l'œuvre, en fait, avec un gros dans l'eau. Voilà, malgré les nombreux hommages posthumes, donc on n'a pas entendu, on n'a pas, pardon, fini d'entendre parler de l'effet Mathilda, même quand le garçon était d'accord.
Bah oui.
Voilà, voilà.
Peut-être donc, que c'est pas que un truc individuel, et que c'est, plutôt, c'est plus global.
Ouais, je pense que c'est ça le problème. C'était Jordan.
Merci Marie. Ah bah un petit peu de musique.
Allez.
On commence à Glasgow, cette péniche de la saison 69-13.
Ouais, ouais.
Épisode 13-12.
Allez.
Ben dis donc, ils étaient énervés et bien gras, surtout.
Ah oui, et bien fort.
Ces petits, oui, le morceau était assez fort.
Ouais. Bon,
ça arrive. Ils sont de Glasgow, ils s'appellent Gout, G-O-U-T. Bon, je ne sais pas trop comment que ça se dit. Comme vous avez pu l'ouïr, il s'agit d'un mélange un peu brut.
De bossa nova.
Je ne sais pas, je dirais... Noisecore, sludgecore, truc un peu comme
hardcore,
ça.
Ouais. Post-hardcore.
Ils viennent de sortir un EP qui s'appelle Actual Bastards, qui vient de sortir aujourd'hui même. On vient de s'écouter la piste I Am a Beacon of Health and Wellbeing.
Ah, t'as vu, hein, c'est plus facile de parler en allemand.
Ya, ya, ya. Und.
Ouais, non. T'as fait allemand LV2, toi ? Non, t'as fait espagnol,
ouais, mais
d'accord,
ouais. En allemand, je sais dire seulement. Ich liebe dich, Eine Berliner.
Ouais.
Et
moi, je sais dire tous les titres de Rammstein, mais je suis pas sûr que ça soit une grande.
Et je connais des mots après. Kartoffel.
Ah ouais. Ça, c'est pomme de terre.
Spiel.
Spiel. Joue.
Ouais.
Jouer.
Ouais. Jouer.
Ouais, ouais.
Bon, ich bin eine große Kartoffel und der mischt der Spiegel.
D'accord.
Voilà, je sais pas ce que ça veut dire.
Moi non plus.
Très bien. Bon, ben bah, voilà, c'était goût. Oui, j'ai dit le titre.
Oui, tu as dit. Allez, moi, je vais commencer donc ma sélection des trucs avec d'autres trucs, hein, du coup, avec un groupe donc venu de Rouen que j'ai découvert en travaillant pour préparer l'émission. Incroyable.
Frustuc aussi.
Hein ?
Je connais aussi Frustuc.
Ah, c'est Frustuc ?
Frustuc, petit déjeuner.
Ah bon ?
Ouais.
Ah. Dankeschön.
Excusez-moi.
ce groupe, donc, c'est Split, un quintet qui mélange du punk, du hardcore, du crust, voire du sludge et de la noise. C'est pour ça que je vous dis, c'est des trucs avec d'autres trucs. Hein. Donc, au cœur de leur compo. Et donc, si vous connaissiez ou connaissez le groupe Structures, eh bien, sachez que Split, c'est le projet donc, de Marvin Borges Soares, qui est ex-bassiste donc, de Structures. En octobre 2025, donc, Split a sorti son premier album intitulé Violence Breeds Violence via Incisive Records, avec une belle illustration sur la pochette du vinyle, vous irez voir. Au cœur des 7 pistes qui composent l'opus, on entend bien que la violence répond à la violence, et les thèmes ne sont pas plus doux, hein, puisqu'en effet, le groupe traite de violence domestique, des brutalités policières ou encore de la dépression, pour ne citer que ces thèmes-là, voilà. On va bien se marrer encore.
C'est un bingo punk ou quoi?
Ouais, c'est ça. Bingo post-punk. Même, ou je sais pas, bingo pénichoisier aussi. Bon, bref. Pour découvrir Split, donc, je vous invite à écouter la piste Stained Soul, oui, piste exutoire, hein, au chant hargneux, au riff nerveux et sauvage qui traduisent une urgence, à la frappe intense et brute, et dont la partie en amorce ne manquera pas de vous rappeler celle de March of the Pigs de Nine Inch Nails.
Ah ouais.
Aussi courte soit-elle, tendez bien l'oreille sur la batterie. Donc, c'est sans gain crasseux et féroce, et c'est Split.
Yeah.
Eh ben oui.
Eh ben on commence à se chauffer sérieusement oui. dans cette petite péniche.
Alors est-ce que vous l'avez entendu le March of the Pigs au début? Ah ouais, non mais tout.
Ouais, c'est plus l'effet quoi.
Ouais, mais ça dure vraiment. En plus, ça dure pas très longtemps, mais moi, oui, voilà.
Bon, très bien, ils étaient passés, ouais, comme je te disais, au Flore, à la cartonnerie, en concert gratuit, un mardi, me semble-t-il, Split.
Très bien.
Voilà. Bon, pour la suite, je suis fort content, parce que les Rouennais de Pilori ont sorti un nouvel album, aujourd'hui même, qui s'appelle Sans Adieu. Bon, on reste dans les mêmes thématiques, et oui, musicalement, hein. On s'éloigne pas trop, hein, ça parle beaucoup de mort, en tout cas de ceux qui sont partis, puisque pour faire de la musique, il faut être là. Bref.
Bah, pas quoi que moi maintenant, hein, parce qu'avec l'intelligence artificielle, apparemment.
Non, je parlais de musique, pardon.
T'as dit pour faire de la musique, il faut être là.
Ouais, de la vraie musique.
Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, oui.
Ouais, alors il nous avait laissé avec un superbe album, enfin c'est personnel, hein, en 2022, quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous.
Ah oui.
Une épreuve. Black and Hardcore, Crust, Post, si vous voulez un petit peu, en tout cas,
avec
pour le côté blackisant.
Avec un peu de larmes dedans.
Oh oui, c'était larmoyant, mais c'était brutal, mais c'était en beau. Même temps. L'ambiance graphique, tout l'esthétisme en fait autour de cette musique est assez bien... Assez bien en concordance.
Ah ben,
concorde
oui.
plutôt bien.
Ça concorde bien.
Y compris sur ce nouveau disque. Alors peut-être un peu plus de blanc quand même dans Sans Adieu sur la pochette, mais que je trouve plutôt belle aussi en style gravure, etc. Allez voir si vous voulez.
Oui, mais j'y vais.
Comment dire ? Eh ben, on va s'en écouter un extrait, ça vous dit. On va s'écouter L'Aise Majesté qui ouvre l'album. Alors franchement, je l'ai écouté en entier. Il y a plein de trucs, mais celle-ci vraiment elle pose le cadre. Ouais. C'est celle qui ouvre. Il y en avait des peut-être plus intéressantes, mais celle-ci. Elle a l'intérêt d'être plutôt caractéristique.
C'est ça à quoi ça me fait penser, le code couleur de l'album. Je crois que c'était... Oh bah merci Marie, chez Canora, quand il avait pas fait un truc genre gold ou un truc comme ça, or, peut-être. Et que c'était un peu les mêmes types de couleurs. Mais en tout cas, très, très joli, bien sûr.
Voilà. Gros start. Je pense qu'on en remettra.
Hein. Oui.
Ouais, en attendant, on écoute L'Aise Majesté, donc Pilori. C'était Pylori.
Ah, dis donc.
Hein, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là?
Les gens de Rouen sont... Hein,
On est très contents qu'ils reviennent.
Ah oui, oui, oui.
C'est vraiment
oui.
trop bien.
C'est trop bien, c'est toujours un succès. Quand même.
Alors, la tournée.
Ah oui, la tournée alors.
À Tours, Rennes, Paris. Ah, attends, je vais regarder Besançon. Ah, puis après, ils partent Germanie, Netherlands, Amiens peut-être.
Ah.
Ah, oh, bah, il n'y a pas Reims, hein.
Ah, bah, ça. Mais Amiens. Oh, c'est une heure.
À l'accueil froid. Oh, ouais, ouais carrément. 4 juin, faire. Qu'est-ce qu'on fait le 4 juin?
Le 4 juin, je sais pas. Mm. Bah, on verra.
Sinon, ils sont au magasin 4 la veille. Ah. Ah, ça peut être sympa aussi.
Faut voir.
Voilà, voilà, pylori, ah. Trop bien.
Ouais, on est content. Allez, je suis avec une autre découverte qui m'a vachement capté. Cette découverte, alors je sais pas comment ça se prononce. Hein. Je vais le prononcer comme je le lis. Anna Yesu. Yesu. I-E-S-U. Bah,
t'avais dit que tu ouais. savais pas.
Mais je sais pas. Donc,
ah,
genre
tu
du
as
50...
su seulement, mais tu sais pas.
Ah non, je sais pas, toujours pas.
Si, Yesu, t'as dit.
Ah, Yesu.
Ouais, Yesu.
C'est... Bravo, c'est beau, c'est beau. Radio
Est-ce que
cliché.
Ça serait pas un petit poète-poète, ça,
ouais.
quand même petit...
Vas-y. Oh, alors, bah, bravo. Voilà. Donc, il y a un duo français de plein d'étiquettes hein, liées au black, hein, comme le black metal, le black gaze, et ça peut être lié au black aussi, hein, de l'indus. Voilà, donc gros programme. Et donc, comment je les ai découverts, ces petits duos?
Ouais, dites-nous.
Eh bien, parce qu'ils ont fait la première partie d'un groupe qu'on aime beaucoup en ce moment et qu'on va voir très bientôt, j'ai nommé Agriculture.
Ah ouais.
Eh ouais.
Où ça?
Oui. Alors,
d'accord.
Du coup, je sais plus, je me rappelle plus. Alors, moi, c'est très facile à trouver. Hein.
Oui, oui, bah, je sais.
Parce que c'est vraiment en cherchant sur Agriculture à base hein, que je suis tombée sur eux. Voilà, et bon, ben, c'est tout. Donc, le duo a sorti son premier album intitulé La chair et l'idéal en 2025. Et les 8 pistes sont vraiment intenses, massives. Brutiste aussi et sorti des ténèbres, hein, ce qui n'a pas rendu la tâche facile pour en choisir une à vous diffuser. Parce qu'il y en a vraiment où c'est pas radiophonique.
C'est pas auditable.
Compatible, voilà. Donc, c'est la plus radiophoniquement audible que j'ai choisie. Hein. Donc, c'est. Elle s'appelle Souffrir A, trois petits points, voilà, point de suspension, qui l'emporte, hein, bravo, félicitations à elle. L'atmosphère de la piste est tourmentée et sombre, hein, la rythmique indus est rude et froide, la basse gronde comme si elle était enragée et le chant, d'abord murmuré, va très vite chercher au fond de ses tripes cette souffrance qui semble adressée directement à travers les riffs violents et torturés. Voilà, c'est soirée de folie. c'est voilà, si vous voulez vous éclater, c'est maintenant.
J'allume
c'est
la boule à facettes.
Tout de suite, dans le Péniche Radio Show, c'est parti pour la catharsis.
Je sais.
Eh ben voilà, hein. Anna Yesu, Yesu. Enfin, c'est ça va bien chercher dans les tréfonds, je trouve. Enfin, moi, ça m'a capté direct. Hein.
Oui, tout à fait. C'est... Et puis, t'as, ouais. t'as le même le son.
Ouais.
Petite réverb qu'il y a partout là sur les, notamment la boîte à rythme et tout, crée vraiment cette ambiance. T'as vraiment l'impression d'être un peu seul au milieu d'un truc.
Ça, ouais, ouais, c'est ça. C'est assez écrasant. Moi, je l'ai écouté allongé. Justement, c'est comme les bons gros morceaux de black qu'on aime bien allongé en mode. En mode, faut lâcher tout, c'est le moment, bah, ça marche très très bien.
On regarde le plafond.
Exactement.
Il tourne peut-être un peu.
Oui, peut-être.
Bon, tout rien à voir. Quoique, il y a peut-être un petit côté un peu indus dark qu'on pourrait retrouver chez Aurore, groupe de hip-hop américain qui mélange. Je ne fais pas l'affront d'aller décrire Aurore.
Ouais,
bon, leur dernier album qui était sorti l'an dernier, ils viennent de sortir un clip pour un morceau qui s'appelle OK, I'm Reloaded.
Oui.
Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le retour de la péniche ce soir. Alors,
OK,
I'm Reloaded. On va s'écouter le morceau, à défaut de vous passer le clip. Ça, vous ferez bien ce que vous voulez. C'est Aurore dans la péniche. Tu la sens là, ta rave dans un hangar Voilà, on est en 1995, c'était Aurore qui a sorti son album en 2025.
C'était génial.
Mais allez écouter tout Aurore, ça change un petit peu musicalement, mais globalement...
Tu les as vus toi en live ?
Ah non !
Ah non !
Ah non, 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 bah, je pense que c'est inaccessible pour nous.
Oh là là, j'aimerais tellement. Bon bref. Bon bah allez, on va chez les Ogosiskuyens, parce qu'on aime bien. Pour découvrir donc Sealer, qui est un quatuor américain de noise, punk et hardcore, Alors, le 30 janvier dernier, le groupe a sorti son premier album éponyme composé de 6 pistes implacables. On va écouter donc la 3, hein, sorry, intitulée Headlong. Alors, pourquoi avoir choisi cette piste qui semble s'éloigner de l'esthétique punk hardcore qu'on retrouve dans les autres ? Eh bien, parce qu'elle a une ouverture plus calme, en tension, et une instrumentation plus chaotique, plus fissurée, donc plus noisy. Voilà, c'est un choix tout à fait... C'est
exprès pour qu'on danse pas.
Voilà. Et bon, finalement, quand le refrain arrive, on se retrouve avec des riffs gras, saturé, avec un grain bien cracra.
Tu peux bouger un peu la tête.
Presque sludgy. Oh, bah, tu veux. Ah, bah, tu
on
peux,
va, on verra, on verra.
Une frappe bien percutante, hein, qui reste un peu dans l'esprit quand même, et un chant qui hurle sa hargne avant de revenir à une voix parlée, prise dans les lignes sonores cycliques et inquiétantes dont il essaie de se sortir avant que l'esthétique saccadée ne reprenne le dessus.
La vache, tu t'es défoncé sur celle-là.
Ah ouais, je m'étais défoncé. Hein. Puis je me suis dit, tiens, je vais pas mettre de virgule, comme ça je vais, oui, je vais mourir à la fin de la phrase.
C'est vrai que t'es bleu, prends, respire à coup.
Donc voilà ce que m'évoque la construction de cette piste que je trouve donc abrasive et expérimentale. J'aurais pu le résumer comme ça, mais ça faisait qu'une ligne. Donc voilà, pour le frontal, je vous conseille quand même plutôt les autres morceaux. Mais donc en attendant, c'est parti pour Headlong de Sealer.
Ah,
we'll be right back.
c'était sympa, ça s'est laissé écouter. Hein.
Ouais, mais je te dis, le moment où... Il crie...
C'est bien quand les gens crient.
Ah, j'aime... Ouais, moi, j'aime
enfin,
bien.
Ça dépend. Hein.
vous avez dit quelque chose de très juste, vous aviez dit...
Nirvana, j'ai dit grunge noise.
Ce passage-là, ouais, très grunge noise, effectivement. Effectivement. Voilà, je le rajouterai à ma liste d'étiquettes.
Voilà, tu as un sacré sac à étiquettes, ouais. Hein, alors j'en ai déjà passé deux ou trois fois je crois, notamment il y a longtemps et puis aussi il y a deux semaines à la dernière émission que j'ai fait solo.
Solo, oui.
On va à Brighton écouter le nouvel album, un nouvel extrait hein, du nouvel album de Choke Hands, ouais. Au programme du Screamo qui vient du fond des tripes. Mm-hmm. On sent bien qu'il ménage pas trop sa voix ni ses cordes vocales, mais c'est aussi ça qu'on aime. Mm-hmm. Post-hardcore, oui, mais je trouve surtout, et notamment sur ce morceau-là qu'on va s'écouter, qui s'appelle Dayglow, qui est la 3, clairement du post-rock. Hein,
voilà. Ah bah oui.
Et donc du coup, beau contraste entre le cri et les guitares peut-être un peu plus posées, plus rock, que vraiment, vraiment énervé, mais hardcore ou quoi, machin.
Mais je trouve qu'il y a des boucles, excuse-moi, je t'interromps, tu te rappelles, il y a un moment on disait, tiens, c'est le retour du post-punk, ensuite on disait, tiens, il y a une espèce de retour de nu metal, et là, il y a pas mal de trucs où ça sent, enfin, quand c'est pas, je veux dire, post-rock, purement post-rock, ouais. Mais il y a des groupes, là, justement, ça retinte un peu, même la période plus shoegazisant aussi. Et je me dis,
la mode,
pas
c'est un, tu vois. Non, mais effectivement, mais c'est un. Oui, c'est ce cycle de que les groupes qui t'influencent,
ouais,
sont forcément un peu liés à une époque qui remonte un petit peu.
Oui.
C'est-à-dire qu'entre le moment où tu arrives à sortir un disque et le moment où tu as commencé à écouter de la zik, il s'est sûrement passé un peu de temps.
Oui.
Et donc, du coup, ça crée cette boucle comme ça.
C'est ces petits retours, là.
Et ce qui est sympa, c'est de voir les vagues. Genre, il y a certains styles qui en sont déjà à leur troisième ou quatrième vague,
Si
c'est des styles assez récents.
C'est
c'est marrant de voir comment à chaque fois c'est remis à la sauce au goût du jour.
Actuel, ouais. C'est
ouais,
ça.
Carrément. Mmh. Donc, on va s'écouter Dayglow, comme je disais, sur The Line That Shapes the Coast of Us, de Choke Hands. Ça va un peu chouiner, hein. Attention pour les oreilles sensibles. J'ai pleuré même tout à l'heure en l'écoutant. Et voilà, c'était Chuck Hands. Petite séquence émotion.
Quoi. Après, ouais, mais tu vois, c'était vraiment le fil rouge de la soirée. Mais tu vois, après la violence, c'était bien un peu de cette petite douceur post finalement. Merci, Yann. Bon, bah qui dit qui dit fin d'émission dit
bouge ton boule.
Exactement.
Bouge ton
boule. Et ce soir, donc, c'est Black Color, hein, avec un K, attention, projet d'un certain Hendrik Groth, from Germany évidemment, qui va nous ambiancer avec un morceau sorti de son opus Absolute Times of Upheaval. Ouais. Bon, sorti le mois dernier via label, on n'avait pas parlé depuis très très longtemps. Le fameux
Aufnahme
und Wiedergabe, exactement. Et donc ce morceau, il s'intitule
Fire. Plus de merch que de musique. Quand même.
Ouais. Il s'intitule Fire Made Flesh. Donc beat et sonorité indus, hein, et métallique, rythmique cyclique et dansante, nappe synthétique, électro-son. Bah voilà ce qui vous attend avec Black Color. Et puis bah pour bien commencer le week-end, on peut déjà lancer la piste.
Oh yeah, bah elle est déjà partie.
Oui, je l'entends, mais plus fort.
Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine?
Bah si vous voulez, oui.
Eh ben, on
se tient au jus. De toute façon, maintenant, chill. Hein.
Tout à fait. Carrément. Laissons-nous vivre. Laissez-vous vivre. Bon week-end, bonne soirée.
Oui, bonne soirée.
Salut.
Quatrième top, il sera exactement l'heure d'écouter l'émission Pop.